présentation en 6 temps. On va essayer de faire ça en 15 minutes. Un mot sur les institutions de l'ALENA et son évolution. Quelques occasions ou propositions d'amendement ou de renégociation de l'ALENA, parce qu'il y en a eu, qui, à mon avis, ont été, dans certains cas, des occasions ratées. Un mot sur le rôle joué donc par le mécanisme de règlement des différends, ou les mécanismes de règlement des différends dans l'ALENA, parce que ces mécanismes ont un rôle certain. Je vais tirer, et là je vais jouer mon rôle de juriste, je vais utiliser deux différends canado-américains dont l'issue a, me semble-t-il, beaucoup affaibli l'ALENA. Ensuite, vous livrez une brève analyse des effets, encore une fois une analyse juridique, des effets de certains accords commerciaux postérieurs à l'ALENA. Et je vais vous livrer mes conclusions, mes prévisions quant à l'avenir de l'ALENA. Je vous annonce d'emblée que je suis de ceux qui pensent que l'ALENA, on est en train de le réécrire là. On est en train de le réécrire, là. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, un mot, mais que très rapide, parce que tout le monde sait où on s'en va là-dessus. L'intégration économique entre les trois parties à l'ALENA est une intégration qui est très forte, mais l'intégration politique, elle, est à peu près nulle. Les institutions de l'ALENA ne fonctionnent pas. De toute façon, on leur a donné des mandats très minces. Et il n'y a rien dans l'accord. Vous ne trouverez pas de disposition dans l'accord. Moi, j'ai souvent, j'enseigne l'ALENA tous les ans et j'ai beaucoup constaté depuis une douzaine d'années que beaucoup de gens parlent de l'ALENA et n'ont jamais lu un mot de l'ALENA. Ça, j'ai vu ça souvent. Si vous faites le jeu et que vous allez lire l'ALENA, vous allez constater qu'il n'y a rien qui permet de faire évoluer les termes de l'accord. Donc, pas de clause d'extinction, pas de clause de suspension, ce qui a amené beaucoup d'auteurs, beaucoup d'observateurs, dont celui qui vous parle, à dire que l'accord était un accord stagnant. Certains sont même allés jusqu'à écrire que c'était un accord mort, ce qui n'est pas une expression très heureuse, me semble-t-il, parce que ça reste le cadre qui régit la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. Dire aussi que c'est un accord mort n'est pas faire justice à l'ALENA, parce que pendant longtemps, l'ALENA a servi de modèle à bien d'autres accords de libre-échange, tellement que certains ont copié presque bêtement l'ALENA. Et ont oublié que les accords parallèles à l'ALENA, les accords sur l'environnement et le travail, ont été écrits dans l'urgence après qu'on ait refusé de rouvrir le texte, mais pour satisfaire le Congrès. Mais après ça, quand l'Australie a emprunté le modèle ALENA, ils ont aussi fait des accords parallèles au lieu de faire des chapitres. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il y a eu des occasions d'amender ou de renégocier l'ALENA. On a tendance parfois à les oublier un peu. Rappelons-nous l'appel de Vicente Fox à faire de l'ALENA un marché commun. Quand il est arrivé au pouvoir, et il a énoncé ça plus d'une fois, c'est vite passé sous le radar après quoi? Après les événements du 11 septembre. Après ça, il n'y en était plus question. T'imagines-tu d'ouvrir les frontières? Oublie ça, le marché commun. Le partenariat pour la sécurité et la prospérité fut pendant un temps, en 2005, l'occasion de réfléchir sur la relation entre les trois parties à l'ALENA. Donc, une fois la poussière retombée après les événements du 11 septembre, après qu'on ait un peu mis derrière nous les déclarations de Cerducci, vous vous en rappelez, qui est venu à Ottawa, presque avec un ton menaçant, disant « More security, more trade, less security, less trade ». Et là, on s'est dit « Bon, il faut peut-être repenser un peu notre relation avec les États-Unis ». Le partenariat a été pendant un temps une occasion de repenser l'ALENA, ça ne s'est jamais fait non plus. On a évoqué plus tôt dans la journée les primaires démocrates à l'élection présidentielle de 2008. Autant Barack Obama qu'Hillary Clinton disent « Ouais, on va réécrire l'ALENA. Si je deviens président, moi, je demande une réouverture des négociations. » Vous vous rappellerez que Jim Flaherty, dans les semaines qui suivent, dit « Parfait, on renégocie aussi les dispositions en matière d'énergie. » Fini. Fin de la pièce. Donc, une autre occasion ratée. Il y a des propositions dans la littérature savante. Nous avons évoqué Robert Pastor, à qui on peut rendre hommage peut-être brièvement aujourd'hui, qui a beaucoup écrit sur la communauté nord-américaine. Lui a avancé des idées extrêmement fortes de manière à proposer donc de renouveler l'ALENA. Des think tanks, bon, C.D. Howe, pour des motivations complètement différentes de celles de Robert Pastor, proposait une union douanière. L'occasion qui se présente maintenant, c'est celle du partenariat transpacifique, dont je vais vous reparler un peu plus tard. En vous parlant du partenariat transpacifique, vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement pour vous dire mon admiration pour le State Department aux États-Unis. Quand on parlait des formes que prend la mondialisation il y a 8-10 ans. On parlait de qui? On parlait des BRICS, ou des BRICS, en incluant dans certains cas l'Afrique du Sud. Quand on parle des formes que va prendre la mondialisation aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la politique commerciale américaine, un partenariat vers l'Europe, le Transatlantic Partnership, puis un partenariat vers l'Asie, le Trans-Pacific Partnership. Avez-vous remarqué que les acteurs du BRICS sont nulle part là-dedans? On vient de les contourner très habilement. Pas grand monde souligne ça. Oups! Changement du discours et changement des acteurs. Ça s'est fait en douce. J'ai pas entendu un éditorialiste relever ça. Je suis peut-être le premier qui vous en parle. Alors, les Américains sont forts. Ils ont repris complètement le contrôle de l'agenda. Dans l'ALENA, donc, dans cet accord qui ne se renouvelle pas facilement et dont le texte ne bouge pas... Tiens, je suis plus derrière le micro. Est-ce que ça va si je ne suis pas derrière le micro?
Ça va.
Ça va? Les mécanismes de règlement des différends jouent un rôle important. Pourquoi? Parce que l'ALENA, ça reste un accord très important. Il contient de nombreuses normes. Et une norme, ça se met en œuvre. Hein? Les juristes disent que ça vit une norme. Pourquoi? Parce que ça régit un comportement. Donc, forcément, il faut que ça ait un sens au quotidien, une norme. Et si personne ne met à jour la norme se met à jour d'elle-même. Elle trouve un véhicule pour se mettre à jour. Quel est ce véhicule dans l'ALENA? C'est beaucoup le règlement des différends. Tel comportement est posé, tel geste est posé par un des acteurs, est-ce que l'ALENA le valide ou ne le valide pas? Ben, il faut que le règlement des différends joue un rôle. Le chapitre 20 sur les différents États a tranché trois affaires. Depuis 1994, je dirais que dans deux des trois cas, on était devant un cas de mauvaise foi crasse des Américains. Je ne sais pas si Carl sera de mon avis, mais dans l'affaire du camionnage, c'était proprement scandaleux. Puis dans l'affaire des tarifs agricoles avec le Canada, c'était scandaleux. Je ne sais pas si... j'espère que je ne fais pas offense à David quand je le dis. Je m'en voudrais de faire offense. Mais moi, en tout cas, quand on lit les décisions, c'est... Puis la troisième affaire est une affaire sans trop d'importance, c'est l'affaire des balais de sorgho, pour ceux qui connaissent ça. Ça se trouve sur le site de l'ALENA, quand le site de l'ALENA fonctionne. En matière de dumping, j'y reviendrai plus tard, ça a beaucoup servi à régler des questions très importantes sur l'acier, mais surtout sur le bois. Et le chapitre qui fonctionne vraiment bien, c'est le chapitre sur les arbitrages investisseurs-État. Et ça, c'est riche. Et l'ALENA nourrit le droit des investissements au plan mondial, de façon importante. N'importe qui donne un cours sur le droit des investissements, vous devez consacrer le quart de votre cours au moins à l'ALENA. L'ALENA est d'une grande richesse de ce point de vue-là. Je vous amène sur deux exemples de cas où on a réglé un différend dans l'ALENA par un accord à côté de l'ALENA. Alors qu'il y avait, je vais vous le montrer, une occasion de rénover l'ALENA, de l'amender, de mieux l'appliquer, de faire autre chose en tout cas. Et on est passé complètement à côté de l'ALENA. Le premier cas, c'est le cas de l'accord sur le bois d'œuvre résineux, le ABOR, A-B-O-R, de 2006. Alors cet accord-là régit le commerce du bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis jusqu'au 12 octobre 2015. Quand est-ce qu'on est arrivé à ça? Bien, vous connaissez cette guerre commerciale qui commence, bon, on pourrait discuter longtemps sur les origines de la guerre. Ça date de 200 ans, définitive, mais ça recommence vers 1982. La vraie guerre prend pendant l'ALENA. Il y a eu deux accords sur le bois d'œuvre. Celui-là, c'est une troisième mouture, si j'ose dire. Et jusqu'à ce troisième accord-là, et dans la position canadienne, ça a toujours été comme ça que ça a été vu, il y avait deux chapitres qui devaient régir le commerce du bois entre le Canada et les États-Unis. C'est le chapitre 3 sur l'accès au marché et le chapitre 19 sur le dumping. Et nous avions une alliée forte dans ce litige-là au Canada, dans notre litige avec les États-Unis. Elle s'appelle la règle de droit. Et j'ai toujours pensé que la règle de droit était de notre côté. Carl l'a évoqué tout à l'heure, que les bois ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. C'était de convaincre les Américains. Écoutez, le deal qu'on a dit qu'on peut faire ce qu'on fait. Mais, bon, quand vous êtes devant le géant, vous réglez comme vous pouvez. D'ailleurs, n'entendez pas dans ma voix une critique du Canada quant à la forme que l'accord a pris. On fait ce qu'on peut quand on est la souris qui négocie avec l'éléphant. Hein?
les rapports favorables, donc tous les cas qu'on a déposés devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, devant les groupes spéciaux binationaux de l'ALENA, ça ne donne rien. Nos papetières sont asphyxiées. Il faut qu'on fasse quelque chose. On signe. Qu'est-ce qu'on signe? On signe cet accord-là, dont je vous mets le contenu à l'écran. Je ne vais peut-être pas le résumer au complet. Mais une chose doit vous frapper. Dans l'accord, suspension de l'application du chapitre 11, interdiction de recourir au chapitre 20, et les deux chapitres pertinents, on ne les mentionne pas. Là, on est en train d'appliquer quelque chose qui devrait être en plein cœur de l'ALENA. Il y a quatre chapitres qui sont littéralement bafoués. Et en cas de litige sur le contenu dont on convient, le règlement des différends à Londres, devant la London Court of Arbitration. Saviez-vous que le règlement des différends entre le Canada et les États-Unis sur le bois d'œuvre se règle à Londres? Qui le savait dans le simple fun? Très peu de gens savent ça. Deuxième cas, celui sur les marchés publics en 2010, c'est dans la suite de l'ARA, le American Recovery and Reinvestment Act. Donc, plus de 800 milliards de dollars sont injectés dans l'économie. C'est assorti d'une clause Buy American, le fameux article 1605, où on dit que le fer, l'acier et les produits manufacturés devront être d'origine états-unienne. Il n'y avait pas de texte dans l'ALENA qui contredisait formellement cela. Soyons bien clairs. Par contre, il y avait le chapitre 10 de l'ALENA sur les marchés publics. Et ce chapitre-là était toujours resté incomplété. Quant aux achats des autorités, des entités sous-fédérales, on avait prévu refaire continuer cette négociation-là. On ne l'a jamais continuée. Les juristes naïfs dans mon genre se disent « Voilà l'occasion rêvée de compléter la négociation du chapitre 10. » Pas du tout. Alors, on va signer l'accord sur les marchés publics, l'AMP, qui va contenir deux types de clauses, des clauses d'application provisoire à propos de l'enveloppe budgétaire de l'ARA et des clauses dites permanentes qu'on va calquer sur quoi? Sur l'accord sur les marchés publics qu'on est en train de renégocier à l'OMC. Et qui a été ratifié maintenant par un bon nombre de parties, qui devrait entrer en vigueur là, d'ici la fin de l'hiver. Pas de rapport avec le chapitre 10 de l'ALENA. On n'essaye pas de faire quelques liens que ce soit avec le texte de l'accord. Je vais aller au plus court. Là, il y a une analyse juridique derrière ça. Peut-être vous montrer ça. Donc, quel lien faut-il voir entre ces accords-là, qui sont à côté de l'ALENA et qui pourtant portent sur les mêmes questions? Donc, quel lien faire entre l'ALENA et ces accords-là? Les gouvernements américains et canadiens n'ont jamais énoncé de position officielle sur ces rapports-là, sur le lien à voir. On est ici devant des traités qui sont postérieurs à l'ALENA, signés par deux parties à l'ALENA, portant sur des questions couvertes par l'ALENA. Le droit s'en mêle dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous fais grâce de l'analyse de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour ceux qui sont familiers avec le droit, là, on est dans le droit fondamental. Quelque chose, on est dans le dur, dans le hard law, depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Les autres accords n'entraînent pas d'extinction ni de suspension. Ce serait probablement l'article 30, là, pour ceux qui goûtent le droit des traités, qui trouvent application. Et on constate surtout qu'il s'est développé entre le Canada et les États-Unis une pratique à l'effet d'appliquer l'accord postérieur, même quand cet accord n'est qu'un executive agreement. On remplace un traité formel par un executive agreement, au sens du droit américain. La troisième partie à l'ALENA, le Mexique, pourrait s'en plaindre. Vous êtes en train de changer les termes d'un deal à 3 à 2, à côté de l'ALENA. C'est un executive agreement, puis c'est quand même à ça que vous donnez force de loi. Conclusion. Si des accords partiels, parce que ce sont des accords partiels, ce ne sont pas des accords qui couvrent l'ensemble des relations commerciales entre les trois pays, entre deux des trois parties à l'ALENA ont pour effet de restreindre l'application du traité, il faut s'inquiéter de l'application de l'ALENA dans un proche avenir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en matière de politique commerciale au Canada? Quelle est la principale négociation que l'on mène maintenant, à part de finir celle sur la ECG? C'est le partenariat transpacifique. Les trois parties à l'ALENA sont à la table. On couvre toutes les questions couvertes dans l'ALENA et ce sera un accord postérieur à l'ALENA. Que restera-t-il de l'ALENA une fois qu'on aura signé le partenariat transpacifique? Prenez le téléphone, appelez puis demandez à un ministère La gestion de l'offre en matière agricole, elle a été reconnue dans l'ALENA. Est-ce qu'elle va être reconnue dans le TPP? Cet exercice, moi, je l'ai fait, ils ne vous répondront pas. L'exception culturelle, elle est reconnue dans l'ALENA. Va-t-elle être reconnue dans le TPP? Posez la question, ils ne vous répondront pas.
Donc, devant quoi sommes-nous? Alors, si le TPP couvre toutes les questions couvertes par l'ALENA et qu'il est un traité formel au sens du droit fédéral des États-Unis,
moi, je pose la question, est-ce qu'on est en train de réécrire l'ALENA sans le dire? Je suis d'avis, après analyse juridique, que oui, on est en train de réécrire l'ALENA sans le dire. Qu'est-ce qui reste comme grande incertitude? C'est qu'avant que les Américains signent le TPP, ils font un TPA. C'est quoi le TPA? C'est le Trade Promotion Authority. C'est l'autorité donnée par le Congrès au président pour signer un accord de libre-échange. Puis là, il semble que le président ne l'aura pas, le TPA. Ni pour les négociations avec l'Europe, ni pour... En tout cas, moi, je pense que le Congrès américain n'aura jamais autant mal servi la politique commerciale américaine si jamais c'est ça qu'ils font. Ça serait complètement changer toute leur stratégie à l'égard des BRICS. Ça serait changer toute leur stratégie à l'égard de l'Asie, puis toute leur stratégie avec l'Europe, puis toute leur stratégie en matière d'investissement. Si jamais le TPA n'est pas donné au président, je ne sais pas ce qui va arriver, mais moi, je pense qu'on se dirige vers une crise aux États-Unis. Donc, je lance plein de pavés et je vous laisse là-dessus.